sur le Pont des Arts. Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous, on est au théâtre aujourd'hui avec l'adaptation pour la scène d'un livre poignant, récit autobiographique signé Brahim Naïdbalk, un homo dans la cité. Comment assumer son homosexualité quand on est le fils aîné d'une famille musulmane marocaine vivant en France? Comment l'assumer face à cette famille, mais aussi et peut-être surtout quand on grandit dans des cités où l'homosexualité est considérée comme une tare? Ce combat-là, Brahim Naïdbalk a fini par le gagner. Son histoire est donc interprétée sur scène à Paris au Théâtre de la Reine Blanche. C'est la Rchouma. Bienvenue à toutes et à tous sur le Pont des Arts. Et pour en parler, Ahmed Kadri, Majid Chirmiloud, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réunis sur scène pour interpréter le personnage de Brahim à deux voix, en quelque sorte, et interpréter aussi les autres au fil du récit, notamment sa mère. Yann Dacosta, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez mis en scène cette pièce. Elle a d'abord tourné dans les écoles pour susciter le débat avec les élèves et contribuer peut-être à lever un tabou. Au programme de cette émission, encore une découverte musicale. Carmen Lunsman, bonjour.
Bonjour. Bonjour Nathalie.
Vous nous présenterez une virtuose qu'on a mise au violon à 4 ans et au piano à 7.
Et aujourd'hui, c'est une compositrice, chanteuse et pianiste de jazz. Elle est d'origine guadeloupéenne et s'est inspirée des étoiles pour son troisième album Atacama. C'est Clélia Abraham.
Et puis l'actualité de l'humour et du stand-up, histoire de rire avec Damien Roucou. Damien, cette semaine, vous nous présenterez Élodie Da Silva.
Oui, et pour elle, l'humour est une thérapie. Dans son spectacle, elle aborde des sujets intimes comme les crises de nerfs dans son couple ou encore la difficulté à comprendre la logique de son enfant, une mise à nu qui allie humour et réflexion.
Sur le Pont des Arts, c'est parti.
RFI. Sur le Pont des Arts.
Lâche-moi. Vous savez ce que ça veut dire ?
Non.
Non. Mais ça signifie aussi pudeur, modestie et humilité. C'est considéré comme une valeur essentielle dans ma culture. Cela implique que chacun reste à la place qui lui est assignée par la culture, les traditions, la famille et la religion. Et s'il prétend en sortir et est déclaré comme un déviant ou même comme un traître, je dois dire que j'échappais à cette règle par bien des aspects. Mais autant que frère, j'aurais dû, dès ma préadolescence, montrer mon ascendant sur ma sœur. En fait, pour qu'un garçon soit autorisé à faire ce qu'il veut, pour qu'on lui fiche la paix, il doit montrer qu'il tient ses sœurs.
Tu rentres à telle heure et surtout, tu fréquentes pas celui-là. Le plus souvent, j'ai laissé agir mes frères plus doués que moi pour l'autorité. Mais parfois, il m'arrivait de jouer au petit chef. On va faire une partie de foot. Vous restez à la maison. Maman a besoin de vous.
Voilà, jouer au petit chef avec les petites sœurs. Faire semblant pour éviter la honte, la Rchouma. Ahmed Kadri, Majid Chirmiloud, vous interprétez donc Brahim. Et ce qu'il dit là, en fait, c'est la difficulté pour lui d'être l'aîné dans cette famille, de devoir donner l'exemple à ses frères et sœurs et finalement de devoir garder son secret. C'est-à-dire qu'il se sait homosexuel, mais il ne peut rien en dire.
Tout à fait, oui.
Nulle part, à personne.
Oui. En plus, c'est un poids en fait qu'il traîne avec lui parce qu'il a sa famille. Il était responsable de sa famille, il était en charge de sa famille. Et ça, c'était un poids qui était très difficile pour lui pour assumer son homosexualité.
C'est-à-dire qu'il, oui, effectivement, il se retrouve chef de famille en France avec des parents qui sont retournés au Maroc. Lui a voulu rentrer, il est venu avec toute la fratrie et il se retrouve à assumer ce poids d'une famille alors qu'il est très jeune et ce poids du secret aussi.
Oui, puis faut pas oublier qu'on est aussi à une période où l'homosexualité reste très tabou, n'est pas encore aussi, enfin n'est pas tant visible dans les actualités comme aujourd'hui. elle ne fait pas du tout partie des mœurs, donc c'est très compliqué pour lui. Et donc lui, il a ce poids de la famille, et en même temps, il n'a aucun modèle auquel se rattraper, se raccrocher, donc il ne peut pas en parler.
Et donc il pense qu'il est anormal,
Qu'il est anormal, voilà.
Il se définit comme anormal, parce qu'il n'a pas les références pour le comprendre. Il liste ce qu'on exige de lui dans cette famille, donc la famille qui est la sienne, la virilité, le mariage, la paternité, l'autorité sur les cadets, des qualités, dit-il, qui me manquaient cruellement. Donc il a fait semblant pendant très longtemps. Quand il écrit le livre à 46 ans, il n'a fait son coming out que 3 ans plus tôt. C'est une vie entière de secrets, c'est ça ? C'est
oui,
ça.
Tout à fait. Ah, ouais.
Il a vécu avec ça, il l'a gardé pour lui, il a tenu.
Il a tenu et ça a vraiment été... Ce livre, au moment où il l'a écrit, ça a été une libération, entre guillemets, pour lui. Ça a été vraiment là où tout a démarré pour lui dans sa vie, on va dire, entre guillemets, d'homosexuel assumé.
En plus, et aussi, en fait, aussi, parler de tous les viols qu'il a vécu, tout ce qu'il a vécu comme moment
mauvais traitement.
Oui,
ouais.
Tout à fait. Mmh. Et du coup, c'était un coming out et aussi, c'était un cri de secours pour dire tout ce qu'il a vécu qui était horrible pendant sa jeunesse.
Oui. Yann Dacosta, c'est vous qui avez rencontré ce livre et cet auteur, Brian Nightbalk. Et la pièce s'est montée, en fait, en partenariat avec Amnesty International, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est une commande d'Amnesty International qui voulait qu'on réfléchisse à un module pour parler d'homosexualité dans les établissements scolaires. Et comme j'avais une pièce précédente qui parlait d'homosexualité pour les collégiens et qu'il y avait souvent un endroit vraiment de frottement et d'incompréhension sur la question de la religion, je me suis dit ça c'est un endroit de travail qui me semble intéressant. Et je venais de lire ce livre de Brahim qui me semblait intéressant. Non pas parce que, bien sûr, c'est un témoignage et il y a toute son histoire, mais je trouve que dans son témoignage, il va bien détricoter aussi cette culture qui est la sienne, donc qui est arabo-musulmane, mais cette culture et à un moment donné, pourquoi des gens se sont autorisés à lui faire subir ça et pourquoi lui, à un moment donné, il a pu penser que c'était normal. Et dans son témoignage, ce qui est assez beau, c'est que justement, il analyse vraiment toute cette culture et cette culture de l'archouma, comme il dit, et de la pudeur, humilité et modestie, qui sont des valeurs importantes et qui font qu'à un moment donné, ça, c'est possible.
Ouais. Pourquoi avoir choisi de faire interpréter Brahim par deux comédiens ? Il aurait pu apparaître seul, en scène, raconter son histoire. Il y a un sens à ce dédoublement du personnage de Brahim, pour vous ?
Oui, au tout départ, j'avais une idée. Je m'étais dit, tiens, je vais faire un Brahim jeune et un Brahim plus âgé. Et en fait, c'est la rencontre avec Majid et Ahmed, et aussi l'investissement, l'envie qu'ils avaient aussi de faire ce projet avec moi, qui a fait que je suis parti sur cette idée. Mais quand même, l'idée de porter ce témoignage qui est vraiment lourd, et il ne faut pas oublier qu'il se retrouve beaucoup, enfin toujours, puisque le spectacle est fait pour les lycéens, il se retrouve face à des classes de lycéens qui sont parfois très hostiles. Donc, le fait qu'ils soient deux, et pas tout seul, une personne toute seule qui va se faire un peu dévorer par une classe de tigres. Ouais. Donc c'était l'idée qu'ils soient deux. Et aussi, il y a évidemment, ils interprètent tous les deux Brahim, différentes facettes de Brahim, mais aussi ils interprètent d'autres personnages. Et là, le fait qu'il y ait de la théâtralité, par exemple quand il joue la scène avec sa mère, ou parfois il y a les agresseurs
absolument,
qui sont interprétés.
Ouais. Et on va entendre tout à l'heure un autre extrait de la pièce. Quand vous passez dans les écoles, vous avez l'impression, tous les trois, qu'il y a beaucoup de Brahim, finalement, aujourd'hui, dans les classes, qui n'osent pas parler ?
Énormément. Énormément, ouais. Et on le voit parce qu'après, on a un échange avec les élèves pendant une heure, on a un débat, on a un jeu avec des petits papiers où on leur laisse poser des questions ou faire des réflexions de manière anonyme et après on répond. Et souvent, on a des témoignages de personnes qui se disent « Ah, mais moi, je vis exactement la même chose, aidez-moi ». Ou d'autres, ah merci d'avoir parlé de ce témoignage parce que je vis quelque chose de similaire. Je ne suis pas musulman, mais je suis dans un autre type de famille, mais c'est la même chose.
Je me reconnais.
La honte est la même, qu'on soit dans une famille musulmane ou pas musulmane.
Oui, exactement. Oui, tout à fait.
Ouais.
Oui.
Donc vous vous confrontez à ces jeunes-là et vous avez l'impression évidemment que ça les aide à franchir le pas et à eux-mêmes peut-être un jour faire le coming out dans leur propre famille.
Oui, et puis ce qui est intéressant de voir... contrairement à ce que Brahim a vécu, là, le fait qu'il soit face à deux personnes, donc maghrébines, parce que l'histoire de Brahim, ce sont deux maghrébins, mais qui racontent leur histoire et qui après répondent, nous on répond intimement sur certaines questions, ils ont une référence, une sorte de modèle, en fait, donc ils se sentent moins seuls. Mmh. Ils vont arriver à parler et ça va les rassurer. Ils vont se dire, ah bon, ben, je peux être qui je suis. Et ça les aide à avancer.
Alors la pièce s'ouvre par ce mot, ram, péché. Mais ce que l'on comprend quand même au fil du texte et au fil de la représentation, c'est que ce n'est pas tant la religion qui est en cause, dans le cas et dans le récit de Brahim, que le qu'en dira-t-on, le regard des autres. C'est ça, c'est ce poids-là qui est... Et pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile à porter?
Je pense que dans toutes les sociétés, le regard de l'autre est difficile. La société musulmane, genre la culture musulmane, mais toutes les cultures et toutes sociétés, le regard de l'autre est toujours imposant pour... on vit dans ça. Mmh. On vit dans un miroir, en fait, à se regarder, à regarder l'autre et faire aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est pareil, je pense. Et c'est un poids qu'il faut s'en débarrasser et dire comment aller au-delà de ça.
Ouais, parce que quand il se confie à sa mère, elle ne lui dit pas « ne sois pas homosexuel parce que Dieu l'interdit ». Elle lui dit plutôt « mais que vont penser les autres ?»
Oui, elle lui dit la première chose. Oui.
Et elle lui demande même de faire comme font, dit Brahim, beaucoup d'hommes en tout cas peut-être dans les sociétés maghrébines qui ne tolèrent pas l'homosexualité. Elle lui demande d'avoir une couverture, c'est-à-dire se marier et même éventuellement faire un enfant pour ensuite continuer à fréquenter des hommes.
Oui, c'est ça. Elle lui demande... Alors c'est beau le parcours de la mère, parce qu'elle part vraiment avec tout le poids de la tradition, et au fur et à mesure, elle va se libérer de ça par amour pour son fils. Donc ce personnage, il est très très touchant. Mais il y a d'autres tabous aussi dans l'histoire de Brahim, parce qu'il appartient aussi... Donc il va grandir, enfin il va vivre pendant un temps dans la cité.
Ouais.
Donc et puis aussi l'éducateur sportif, il y a aussi toute la question du football aussi. Ouais. Donc en fait, il y a plusieurs portes d'entrée.
On va y venir. On va simplement écouter cet extrait, cette scène magnifique où vous, Ahmed Kadri, vous jouez la mère et vous, Majid Chirmiloud, le fils. Il a donc dit la vérité enfin à cette mère dont il pensait qu'elle ne supporterait pas. Et non seulement ça le libère, mais en plus, au bout d'un certain temps, sa relation avec sa mère se rétablit. Elle n'en est pas tant affectée que ça. Ils arrivent même à en rire ensemble. Nouvel extrait donc de l'Archoma.
J'ai commencé à lui présenter des amis homosexuels. Ces rencontres lui ont permis de relativiser la situation.
Mais n'est-ce la seule maman qui voulait être homosexuelle?
Non, maman, t'es pas la seule maman à avoir mis au monde un homosexuel. Avec le temps, nous nous sommes même mis à plaisanter sur le sujet. J'étais impressionné par ses progrès. L'amour sans limite qu'elle me vouait était arrivé à bout de son éducation et de ses préjugés. Mais malgré son évolution spectaculaire, il y avait tout de même une chose qu'elle supportait pas. C'était le fait que je reste sans descendance. Elle ne renonçait pas à l'idée de me voir prendre une épouse. Elle me rapportait du Maroc des photos de femmes. Je la taquinais. Maman, je mérite mieux que ça, là, tu crois pas, non?
Ouch, bah, mon fils, elle est très belle, hein. Taftaïe,
bravo. Oui, bah quoi, moi aussi, je sais faire la cuisine. Tu crois quoi? Non, mais maman, tu veux pas arrêter de me présenter des femmes? Et je sais pas, moi, me présenter un beau gosse.
Un beau gosse, c'est un beau gosse.
Et voilà, ils rient ensemble d'imaginer donc ce mariage dans la tradition maghrébine avec ce beau gosse. La leçon de tout ça, c'est que finalement, elle lui garde son amour intact. Il était le fils préféré au départ et il le reste, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Il a passé beaucoup de temps avec elle dans ses jupes quand il était petit. Il dit même qu'il n'arrivait pas à se décoller de sa mère, mais ce lien, il finit par se recréer.
Ce qui est magnifique, c'est qu'il existe toujours. Oui. C'est ça. Maman devrait venir demain voir le spectacle.
Ah, magnifique.
Donc,
c'est vraiment une histoire magnifique entre Brahim et sa maman.
Ouais. Ouais. Il y a très peu d'accessoires sur scène. Yann Dacosta, quelques chaises, une boîte de basket de marque, chaussures de sport de marque, un ballon de foot que les deux comédiens se passent régulièrement. C'est l'idée justement de faire la passe, de faire que d'autres jeunes s'emparent de cette histoire et s'identifient à Brahim.
Oui, c'est vrai que vous parlez de l'histoire du ballon. Pourquoi ce ballon? Oui. Oui, il est très symbolique, effectivement. Et je trouve que c'est un symbole aussi de l'assignation, parce que l'histoire de Brahim, c'est qu'il naît à Saint-Étienne. Et au moment où il naît, c'est la capitale du football à cause des Verts. Et donc, il va être assigné au football toute sa vie. Cette espèce de poids, et dit partout où je vais, on me parle des Verts, on me parle du football, alors que je n'aime pas
c'est
ce
une
sport.
Malédiction, ouais. Voilà. C'est et un en fait, genre de malédiction.
C'est une autre assignation qu'il vit comme celle de sa culture, de la culture de ses parents aussi. Et je trouve que c'était un joli symbole.
Ouais.
Effectivement. effectivement, ce symbole, il a ce ballon, il a un parcours dans le spectacle qui est très symbolique et qui devient une libération à un monde.
C'est ça, parce que cette assignation, il va se l'approprier aussi. Il va devenir entraîneur de Paris Foot Gay, c'est
ça ? Il va cofonder un club qui s'appelle le Paris Foot Gay, qui n'est pas un club réservé aux homosexuels, mais qui va mélanger homosexuels qui sont avérés, révélés, et des hétérosexuels mélangés, puisque lui, il est contre justement cette histoire de ghetto. Et voilà. Et ça n'existe plus, le Paris Foot Gay, mais ça a été un club très symbolique, oui.
Europe, Solis, Mitsini, Sumum, Solis, Erhamni, Rina, Ili, Ashulak. لأجلك يا رب صمتي لأجلك لأجلك يا رب
Sharma Khalife et son Kyrie Eleison, magnifique bande originale de l'Archuma, si on peut dire, la pièce au Théâtre de la Reine Blanche à Paris. Elle intervient à quel moment, Yann Dacosta, cette musique-là ?
Elle est au milieu du spectacle et c'est vrai que c'est le seul moment qui est vraiment très théâtral, dans le sens où c'est une scène un peu muette, où on voit les deux comédiens qui jouent au foot ensemble, et de ce jeu naît un peu un trouble de l'un d'entre eux. Et ce trouble va se transformer en violence. Et c'était une manière de raconter aussi l'homophobie.
Et, oui.
Et ce qu'il dit dedans, il dit en fait il y a du désir qui se transforme en violence parce qu'ils veulent s'auto-mutiler, mutiler la part homosexuelle en eux. Donc c'est un moment un peu symbolique.
Oui, parce que vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, l'Archuma c'est à la maison, c'est vis-à-vis de la famille, mais c'est aussi dehors, dans les cités où Brahim grandit, à Aulnay-sous-Bois, puis à Sèvres. Il énumère dans le livre aussi tout ce qu'il a subi, injures homophobes, humiliation, intimidation, chantage, agression. Agression sexuelle, tentative de viol, pour ne pas dire viol, ce sont ces mots. Je fus des années durant la proie de petits caïds qui allaient savoir comment, avaient flairé ma différence et avaient décidé de me la faire payer. C'est littéralement un enfer pour lui dans cet environnement-là.
C'est ça, c'est 6 ou 7 ans à vivre dans cet enfer sans pouvoir en parler parce qu'il ne veut pas alerter ses frères et sœurs. Donc il y a énormément de détails dans le livre qu'on a un peu aussi édulcoré dans le spectacle parce que c'est tellement violent à recevoir aussi qu'on voulait qu'on entende bien aussi... la problématique qu'il détricote justement. Mais oui, c'est son enfer. Il dit « Je n'ai rencontré en 6 ou 7 ans même pas un pote ». On s'est mesuré la solitude de cet homme qui est un survivant. Hein, c'est un survivant. Et il dira qu'il a écrit ce livre pour se sauver et pour porter plainte, parce qu'il n'a jamais porté plainte. Donc ce livre, c'était sa manière de porter plainte et de sauver d'autres personnes.
Mmh. Sa solitude et puis sa confrontation aussi avec cette espèce de virilisme qui peut paraître folklorique peut-être quand on vit à l'extérieur des cités, mais qui est un vrai poids aussi pour ceux qui vivent dedans.
Mmh. Oui, tout à fait, parce qu'il faut avoir une certaine posture, il faut une certaine démarche et il faut être avec les autres, en fait.
Il faut rentrer dans une case pour exister, pour être légitime, pour être respecté, enfin... Mmh.
Être avec les autres, ça veut dire être s'afficher en tout cas comme un homme, un vrai, jouer au foot
dans des clichés,
à fond. Vraiment, on est dans le cliché total. Et effectivement, ça lui vaut des insultes qu'on va évidemment pas répéter ici. Cette loi de la cité, elle est terrible, surtout quand on est un ado, je pense, qui s'interroge. Mais ce virilisme-là, Brahim en fait aussi l'expérience plus tard dans son métier, lorsqu'il devient éducateur. Là, il est l'adulte, mais il est confronté à des adolescents qui lui renvoient encore cette image d'un homme faible et d'un homme qui n'est pas dans la norme.
Oui, c'est ça, c'est une spirale. Après, dans son milieu professionnel, il va se retrouver avec des jeunes qui ressemblent à ses agresseurs, qui se comportent comme ses agresseurs, et il ne sera même pas protégé non plus par son milieu professionnel, puisqu'il va être avec des collègues, des directions qui vont laisser faire, ou qui vont en tout cas dire, il me planque en fait, ils vont lui donner des postes pour qu'il soit de moins en moins en lien avec les jeunes, alors que c'est le cœur de son métier d'être avec les jeunes. Donc il va vivre de l'homophobie aussi professionnelle.
Vous dites que c'est un survivant, le mot est extrêmement fort, et c'est vrai qu'on le voit peut-être plus encore dans le livre que dans la pièce. Comment est-ce qu'il vit aujourd'hui, Brahim Naït Balkh ?
Brahim, aujourd'hui, donc il a 60 ans, il est toujours éducateur, il est directeur départemental de handisport dans les Hauts-de-Sèvres.
Oui, tout à fait.
Haute-Seine. Il présente une émission Homo Micro sur Fréquence Paris Pluriel. voilà. Et donc, il vit de ça. Il est éducateur et il travaille avec des personnes handicapées moteurs. Et puis, d'un point de vue sentimental, il a mis énormément de temps à se réparer parce que c'est une personne qui a été violée, qui a été complètement détruite, qui a mis beaucoup de temps à faire confiance.
Et qui a eu en plus une grosse déception amoureuse.
Voilà, qui a vécu des grosses déceptions amoureuses, dont une qui est vraiment racontée dans le spectacle. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il ait rencontré quand même...
L'amour.
Et vous avez un lien particulier avec vous qui interprétez son rôle sur scène alors qu'il est là, qu'il existe.
Oui, on le voit très régulièrement. Clairement, Brahim, quand on joue, quand il peut, parfois il vient avec nous sur certaines représentations en scolaire et on discute beaucoup ensemble. On a vraiment tissé un vrai lien. Il fait partie un peu de la troupe
hein, la troupe aussi.
Vraiment, parce que déjà il a été là dès le début, hein, depuis la création et de l'adaptation que Yann a fait. Hein. Il était là au début pour valider tout ce qui se passait et puis il nous a posé beaucoup de questions sur notre parcours, etc., etc.
C'est une forme de théâtre évidemment militant, Yann Dacosta, qui prend le parti de raconter un parcours et de le présenter au public pour sensibiliser à un problème particulier. C'est votre théâtre à vous, ça, ou pas seulement ?
C'est pas mal mon théâtre quand même, un théâtre qui travaille sur les consciences citoyennes avec des thématiques en général de société. Mais c'est vrai que ce spectacle, on est un peu des ambassadeurs Amnesty International, qui travaillent aussi à partir de témoignages, c'est leur un peu fer de lance. Et aussi dire que le témoignage de Brahim, il est très dur, mais quand on joue le spectacle en milieu scolaire, c'est suivi d'un débat pour aussi déminer un petit peu tout ce qui a été dit dans le témoignage. Et les deux comédiens peuvent aussi être amenés, parce que les élèves leur posent des questions assez personnelles, raconter leur parcours à eux, qui est quand même beaucoup plus lumineux et qui donne aussi beaucoup plus d'espoir sur on peut être homosexuel et se construire tout à fait sereinement dans cette culture-là.
Majid Chirmiloud, Ahmed Kadri, évidemment, vous vous reconnaissez aussi dans ce personnage-là. Qu'est-ce que vous partagez avec Brahim et quelle est la part pour vous, là, pour le coup, de militantisme et de, j'allais dire, de jeu théâtral banal.
Ben, on se reconnaît dans l'histoire, dans le fait qu'on est tous les deux d'origine arabe ou musulmane.
Vous êtes d'origine algérienne, tous
oui.
les deux,
oui,
c'est ça ?
Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je suis algérien, je suis né et grandi là-bas. Et ça fait maintenant 16 ans que j'habite en France. Et j'ai grandi dans une société algérienne où il fallait marcher d'une certaine manière, il fallait parler d'une certaine manière. Et moi-même, en fait, quand j'étais jeune, j'essayais de rentrer dans le cadre parce que les gens, les autres me disaient que j'étais une fille. Dans un moment où j'avais pas de sexualité de base, où je pensais même pas à la sexualité. Et du coup, il y a
c'était juste des attitudes, un comportement.
Oui, parce que j'étais timide.
Vous n'aimiez pas le foot non plus ?
Bah non, j'aimais pas du tout le foot.
C'est souvent un marqueur.
Oui, oui, j'aimais pas du tout le foot. Et voilà, j'étais quelqu'un qui était timide, qui aimait bien tout ce qui est artistique.
Ouais.
Et du coup, j'étais un peu mis à l'écart par les autres. Et on partage ça quand on va dans les lycées, on parle de nos parcours personnels.
Ouais.
Moi, je leur dis d'où je viens et où je suis aujourd'hui. Moi, j'ai pas vécu dans une cité. Je connais pas comment on vit dans une cité. J'entends parler. Comme tout le monde.
Mais vous partagez avec l'histoire de Brahim cette stigmatisation en fait, dès l'enfance. Quoi.
Oui, tout à fait.
Et Majid Chirmeloudi, c'est pareil pour vous ?
Oui, c'est pareil. Et en plus, moi, je suis d'origine algérienne et je suis né en France. Et j'ai grandi en milieu rural, pas dans la cité, mais en milieu rural. Et je suis issu d'une famille nombreuse comme Brahim. Donc, on est 8 enfants. Cette problématique du « quand dira-t-on ? » J'ai grandi avec ça. Enfin, ça fait partie de
parce que le milieu rural ou parce que juste les voisins,
deux. Les deux. Les deux. Ouais. Les deux. Le milieu rural et aussi la culture dans laquelle on a grandi. Hein. Il y a toujours cette chose. Pour les autres, faut faire comme ça. Mais heureusement que j'ai pas eu le parcours violent de Brahim. J'ai eu la chance d'avoir des frères et sœurs très aimants. Et avec qui on a tissé des liens très très forts. Et ça, c'est hyper important où j'ai pas eu de problème par rapport à tout ça, grâce à l'amour que j'ai eu dans ma famille, autour de moi.
Ouais.
Et ça, c'est important.
Est-ce que vous diriez qu'à l'échelle de votre vie, vous voyez ces choses-là changer aussi ? On disait, Brahim, il est de la génération d'avant, il a 60 ans, vous, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez moins de 40, on va dire.
Moi, j'aimerais dire que oui, que ça change, mais non.
D'accord.
Mais non, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. On a même des représentations, que ce soit dans les médias, la télévision, les séries télé, etc. Mais ça ne change pas trop. C'est pour ça qu'on est encore là et qu'on défend ce spectacle à fond, parce qu'on s'est même rendu compte depuis 3 ans avec les jeunes que ça, c'est très virulent, il y a des réactions de plus en plus violentes et où il y a une sorte de violence banalisée par la parole, totalement assumée. Parfois, on a des insultes ouvertes pendant le spectacle, pendant les scènes horribles du viol. On entend des choses horribles, genre bien fait pour lui. À la fin, pendant le débat, quand les jeunes s'expriment, parfois, je parle que des choses négatives, il n'y a pas que ça. On a des insultes, on nous dit
faut vous tuer,
dans mon pays, on les brûle, il faut remettre la peine de mort.
Chez les gamins, donc chez des adolescents.
Chez des adolescents, ouais.
Ouais.
Donc le conseil, il est celui-là. On voudrait dire que ça va mieux, mais ça ne va pas mieux.
Non, ça ne va pas vraiment mieux. Oui, comme dit Majid, nous, souvent avec Majid, on se dit « Ah, ils ont de la chance de voir ce spectacle-là » parce que oui, on n'a pas...
Vous auriez aimé le voir enfant, peut-être.
Nous, enfants, on est des enfants des années 80, 90, et pendant cette période, déjà, Internet n'existait pas, il y avait plein de choses qui n'existaient pas. Et moi, j'aurais bien aimé voir un spectacle comme ça parce que, oui, il y avait le côté avec Brahim, on est un peu seul et on se dit « On est seul au monde ». Et quand à un moment donné, dans le spectacle, où j'ai dit, quand il a déménagé à Paris, il a vu des hommes se prendre main dans la main. Moi, quand je suis arrivé à Paris la première fois, à mes 13 ans, 14 ans, avec mes parents pour voyager, j'ai vu des hommes se prendre main dans la main. J'étais dans un Disneyland. Moi, je me suis dit,
ça existe donc.
Oui, c'était vraiment comme dans un rêve. Et j'étais très content.
Ouais.
C'était une sensation d'euphorie où je me suis dit, waouh.
Donc aujourd'hui, il y a davantage de représentation des couples homosexuels, garçons ou filles. Mais alors pourquoi vous avez l'impression que ça ne s'améliore pas ? C'est le contexte politique ? C'est une forme de réaction au sens historique du terme ?
Énormément.
En France ?
Surtout, on a remarqué ça en fait, depuis les élections de 2022, en fait, qu'il y avait ce problème-là. En fait, on voyait à la télé une certaine libération de parole un peu dans tous les sens. Et du coup, les gamins, se sentent à l'aise, eux aussi, de parler de plein de choses où c'est même pas eux, c'est, tu sens que c'est une parole d'adulte, c'est une parole de parent.
La fameuse libération de la parole.
Ouais. Une normalisation de la violence par la parole, c'est incroyable.
Et si on va chercher peut-être du côté des États-Unis, il y a quelques explications à ça sans doute.
Sadandine, dedans, dedans, sadandine. Si ça ne t'ennuie pas, ça t'ennuyait pas. Dis aussi dandine. Sadandine, dedans, souvent sadandine. Si ça ne t'ennuie pas, dansons de ce pas. La danse est divine. Aïe, bon Dieu. Bana loba. Ma douée. Nos têtes. Que le ciel ne tombe pas. Tiens, bel air. Pas molli. Rebondis. Sadandine dedans. Dedans, sadandine. Si ça ne t'ennuie pas, ça t'ennuie pas. Vieux sidandine. Sadandine dedans. Souvent, sadandine. Si ça ne t'ennuie pas.
Ça s'appelle Danse Divine, c'est dans la playlist RFI du mois. Dieu Joa et Lieutenant Nicholson. L'actualité de l'humour sur le Pont des Arts avec Damien Roucou, vous allez l'entendre, Ahmed Kadri, Majid Chirmeloud, Yann Dacosta. Il est question aussi, comme dans l'Archouma, de mère et d'enfant, entre autres.
Bonsoir, vous êtes venu vous divertir
Salam, Meroya.
Placez ou pas cette blague.
Et dans Histoire de rire, Damien, vous nous faites découvrir aujourd'hui Elodie Da Silva. L'humoriste est actuellement sur scène avec son spectacle Tempête émotionnelle.
Et oui, et autant vous prévenir, Elodie Da Silva est une humoriste assez singulière. Le nom de son spectacle donne d'ailleurs le ton. Sur scène, combinaison noire cintrée à la taille, chaussures rouges flashy. Elodie Da Silva déborde d'énergie et nous déballe ses émotions les unes après les autres pour un show d'1h30 qu'elle a construit sur les étapes marquantes de sa vie. Forcément, ça commence avec son enfance chez ses parents. Mais je vous donne d'abord un peu le contexte. La jeune femme est née à Gagny, en région parisienne. Le père capverdien, la mère sénégalaise. Tous les deux ont immigré en France. Et l'humoriste se remémore alors dans son sketch cette enfance pas si douce.
On parle quand même d'une époque où si tu dérangeais ta mère alors qu'elle était au téléphone et que du coup elle te jetait son chausson dans la tête, ça ne choquait personne. Une époque où si tu restais seule dans la cage d'escalier de 18h à 21h parce que t'avais qu'à pas oublier tes clés à 7 ans, ça ne choquait personne. Une époque où si t'aimais pas ce que ta mère avait cuisiné et que du coup, tu restais seule dans le salon, dans le noir, jusqu'à 1h du matin parce qu'on gaspille pas l'électricité avec ton assiette de foie de cheval parce que ça permet de faire le plein de fer, ça ne choquait personne. Donc venez dire à mes parents... En fait, moi, j'aimerais que vous écoutiez mes émotions. Ça, Ça aurait choqué tout le monde.
Alors c'est vrai qu'on est loin, hein, Damien. On est très loin des standards de l'éducation de 2025. On sent tout de même qu'elle arrive à en rire, hein, tout en faisant passer des messages. Et c'est pas le seul sujet sensible qu'elle aborde dans le spectacle. Hein.
Bah oui, sur scène, elle dépeint avec humour les crises de couple. Et selon Élodie Da Silva, tout est la faute aux émotions, bien différentes chez les hommes et les femmes. D'un côté, les femmes réagissent en drama queen des émotions, hein, en raison de leur cerveau droit. Voilà, et les hommes, eux, grâce à leur cerveau gauche, seraient des nerds des solutions, si je reprends son expression, comprenez, hein, des petits génies des solutions. Et pour le démontrer, alors sur scène, elle invite un homme du public à jouer le rôle du père de famille un peu apathique. La jeune femme, elle, joue la très jeune maman au bord de la crise de nerfs. Alors forcément, moi, quand j'ai vu le spectacle, j'ai vu un appel pour les hommes à se déconstruire, mais il faut aussi y voir un message pour les femmes.
Moi, je le dis toujours, j'ai reproché au père de mon fils pendant des années de ne pas s'occuper assez de son fils, mais la vérité, c'est que je ne lui laissais pas la place parce que je pensais que j'étais capable de tout faire, même sans sommeil, même sans manger, etc. Donc moi aussi, j'ai cet énorme travail à faire de lui laisser la place. Parce qu'avec l'éducation que j'ai eue, j'ai vu une mère qui n'a pas laissé la place à mon père et c'était elle qui devait gérer les enfants. Donc en tout cas, moi, de ma vision, c'est que parfois, en tant que femme aussi, on a aussi un gros travail à faire. Ils en ont un gros, mais ce spectacle-là, il est plutôt réalisons, nous, femmes, qu'on est en train d'essayer de tout faire, alors qu'on ne dort pas, qu'on ne mange pas, qu'on ne fait plus de sport, qu'on n'a pas de câlin parfois, et qu'eux, qu'ils réalisent aussi que parfois, ils ont beaucoup de mal à répondre à nos émotions, à répondre à notre intuition, et qu'ils sont beaucoup trop dans tout ce qui va être rationalité, en fait. Donc, c'est vraiment un message pour les deux, en fait.
Alors, elle a bien réfléchi à tout ça, en tout cas. Élodie Da Silva, vous l'avez dit, elle se met à nu dans ce spectacle. Elle aborde des sujets très personnels. Ça a été facile pour elle de se dévoiler ?
Oui, pas du tout. Il lui a d'abord fallu du temps pour accepter de monter sur scène, car Élodie Da Silva n'était pas prédestinée à devenir humoriste. Après un parcours scolaire impressionnant, la jeune femme s'était lancée avec succès dans le milieu de l'entrepreneuriat. Mais elle s'est rendue compte que ce monde l'ennuyait. Alors, au moment où Élodie devient mère célibataire, le déclic se fait. Elle veut monter sur scène et partager ses expériences avec les autres. Elle appelle d'ailleurs son spectacle un master show qu'elle aborde comme une thérapie publique.
La scène, c'est ma plus grande thérapie. Le premier spectacle m'a aidée à passer au-dessus des difficultés que j'ai rencontrées les trois premières années de mon fils et le fait d'être devenue mère célibataire et l'absence de sommeil. Et le deuxième spectacle, là, il est plutôt sur le fait de venir travailler sur mes traumas, de venir pardonner à mes parents, de venir accepter ce qui s'est passé et de venir aussi prendre mes responsabilités, par exemple au niveau de la relation avec le père de mon fils.
Mais attention, l'humoriste nous met en garde. Rire de ses traumas, oui, mais il ne faut surtout pas le faire n'importe comment.
Il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se servir de l'humour pour cacher des traumas, pour cacher des trucs enfouis. On peut commencer à rire de ce qui nous est arrivé, mais en ayant fait ce travail sur soi et en étant conscient de ce qu'on raconte ici, de venir rigoler pour masquer un mal-être ou masquer quelque chose de très grave qu'on est en train de dire. C'est vraiment ça la nuance. C'est là, on est là, on en rigole, mais on a fait le travail avant, on a tout détricoté. Et on est prêt à en rire. On ne rit pas pour cacher une douleur.
Et si je comprends bien, après cette confession publique, Damien, tout va bien pour Élodie ?
Oui, et pour vous le prouver, j'ai envie de finir cette chronique en vous proposant un pic d'émotion, comme elle le dit, un shot de joie, des éclats de rire, en écoutant un des derniers sketchs qui ponctue le spectacle. Dans celui-ci, l'humoriste boucle la boucle, si je peux dire. La petite fille est à son tour devenue mère de famille. C'est elle qui, cette fois-ci, se confronte à l'éducation parentale. Elle devient celle qui doit se contenir, écouter et rassurer. Une chose pas si simple face à la logique des enfants.
Un enfant, il est par nature dans son cerveau droit. Un enfant, ce n'est qu'émotion. Ta logique, il s'en fout, tu vois. Quand tu lui dis, chérie, il nous reste 10 minutes, sinon on va être en retard, il pleut des cordes, dépêche-toi, mets ton manteau, on y va. Maman, j'ai mis mes tongs. Il s'en fout de ta logique, tu vois, hein. Un enfant, quand tous les matins il pleure quand tu le déposes à l'école parce qu'il déteste l'école et qu'à chaque fois que tu viens le chercher, il te dit c'était la meilleure journée de ma vie, hein? Et que t'as envie de lui dire pourquoi tu me fais chier tous les matins alors? Aucune logique! Hein? Mon fils, quand il rentre à la maison et qu'il me dit maman, Théo, je le déteste, et du coup tu nous connais, nous les mamans, hein? Du coup moi ça y est, je me mets à détester Théo aussi, hein? Oui? Et 10 minutes après, il me dit on peut l'inviter à dormir? Non, je le déteste.
Damien, où est-ce qu'on peut voir Élodie Da Silva?
Oui, si vous êtes à Paris, notez bien la date. Elle sera au Casino de Paris le 13 avril, puis elle sera ensuite à La Réunion le 30 avril et le 2 mai. Vous pouvez aussi rejoindre sa communauté de 480 000 followers sur Instagram, @ElodieDaSilva.
Damien, on vous retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Histoire de Rire.
sur le Pont des Arts.
Sur le Pont des Arts avec Yann Dacosta, Majid Chirmiloud et Ahmed Kadri. On vous a entendu rire de bon cœur avec Elodie Da Silva. Le stand-up, l'humour sont aussi des gens où on peut faire passer pas mal de choses hein, sur scène, l'air bien de sûr. Rien. Ça vous tenterait un jour, l'un et l'autre
bon, pourquoi pas, pourquoi
pas. Plutôt que la troupe, le seul en scène et la confrontation directe, immédiate avec un public.
Oui, bah, j'ai déjà fait un seul en scène, mais rien à voir avec, avec le stand-up. En fait, c'est vraiment des personnages et tout. J'ai travaillé l'année dernière sur le roman de Romain Gary, La vie devant soi.
D'accord.
Et,
Émile Ajar.
Oui, Émile Ajar, tout à fait, où je parle de plusieurs personnages, où là aussi, j'essaye de tout ce qui est stigmatisation, les préjugés par rapport à l'enfance qu'il a vécu, un enfant musulman, algérien, qui était éduqué par une juive prostituée.
Ouais. C'est également une belle histoire d'amour maternel. Enfin, c'est pas sa mère biologique,
oui, oui. Mais c'est quoi une mère,
c'est
en
une
fait
une très belle histoire, belle histoire d'amour. Donc, vous en avez déjà fait, vous. Et vous, Mathieu?
Alors, moi, j'ai déjà fait un seul en scène aussi. C'était Un monde qui s'efface, un texte de Naomi Wallace. Et c'était l'histoire d'un jeune Irakien qui parlait de la guerre en Irak et de son grand amour qu'il avait pour sa grand-mère et pour les livres. Et où on avait détruit tout ce pays. Et à travers son souvenir, il essayait de reconstruire tout son monde à travers les oiseaux, parce qu'il adorait les oiseaux, etc. Mais c'est plus un... Je trouve que c'est très différent. C'est un seul en scène, mais c'est très différent que du stand-up. Oui. Je trouve que l'exercice du stand-up, c'est très difficile. C'est encore plus difficile de parler vraiment de soi et d'aller chercher le public. C'est un autre exercice.
Ouais. Je sais pas si... Pourtant, vous arrivez à faire rire le public avec le sujet tragique de l'Archouma. Vous y arrivez très bien.
Ouais.
Mais c'est un texte, en fait.
Mais c'est un texte qui n'est pas le nôtre.
C'est ça.
On va partir pour un voyage musical à présent entre la Guadeloupe et l'Amérique du Sud, le désert d'Atacama avec Carmen Lunzmann. Piano qui s'envole à destination de l'espace Orion, ce titre nommé d'après une constellation d'étoiles sortie tout droit de la plume et des doigts de Clélia Abraham que vous allez nous présenter, donc Carmen. Elle est tout juste trentenaire, d'origine guadeloupéenne et l'artiste vient de dévoiler son deuxième album, donc Atacama, 13 titres entre ciel et terre.
Voix entre ciel et désert, car Atacama fait référence, Nathalie, au désert dans le nord du Chili et l'extrême sud du Pérou, connu pour être l'une des régions les plus arides de la planète, mais aussi pour ses nuits étoilées sans pareil. Clélia Abraham est partie décrocher les étoiles aux touches de son piano.
Ce titre particulièrement atmosphérique, Carmen, de Clélia Abraham, c'est mystique. Sous quelle étoile est née cette artiste ?
Eh ben, sous l'étoile de la musique, évidemment, dans une fratrie de musiciens. La Benjamine s'est mise au violon à l'âge de 4 ans, au piano à 7 ans. Elle bascule vers le jazz à 18 ans, s'intéresse aussi à la musique néo-soul et brésilienne et renoue avec les racines antillaises héritées de son père. Ce titre, Takut, par exemple, rend hommage à un rythme du guaca guadeloupien inventé dans les années 70.
Janice, elle voyage d'univers en univers et elle chante aussi, Carmen.
Oui, là aussi, Clélia Abraham survole toute une panoplie de styles. Nathalie, des vocalises jazzy à l'inspiration gospel soul. En passant par une balade pop-folk. I wanna fly, I wanna feel free. Blindfolded. Let me guess what is around. And I keep moving. Et elle continue d'avancer comme dans ce titre I Keep Moving, les pieds posés sur la terre de ses ancêtres, les yeux levés vers le ciel. So many scents in the air, so many stars everywhere. Is this the beauty of life? Do you hear over there? Is it a bird somewhere? Just close your eyes and you'll feel I keep moving.
Et Clélia Abraham trace son chemin en compagnie d'un contrebassiste français, d'une batteuse d'origine brésilienne et d'un maître béninois à la guitare africaine pour ce titre Pays, autre hommage à ses racines.
Eh bien, ce titre, ce rythme plutôt obstiné et lancinant s'appelle le Tumblak. C'est l'un des 7 rythmes traditionnels de la Guadeloupe. Il fait partie d'une danse qui évoque l'amour et la fertilité. Et puis, l'album se clôt sur une déclaration d'amour étonnante face au monde troublé.
La douleur nous étreint et l'on rêve alors d'un monde où la souffrance est aussi rare que l'or. Touchons l'infini du bout des yeux, lorsque notre regard se perd dans les cieux. Tant de lumière scintille là-bas au loin, perpétuelle promesse de meilleurs lendemains.
Espérance, c'est le dernier morceau de cet album Atacama de Clélia Abraham. C'est à la fois introspectif et festif, c'est un hommage à la vie, comme avec ce titre, Célébration aux influences réunionnaises. L'album de Clélia Abraham est aussi à découvrir en concert. Ce soir, elle est à la Passerelle, à Saint-Brieuc. Et puis fin mai, dans le sud de la France, Cannes, Marseille et Saint-Raphaël. Merci Carmen Lunsmann.
Avec plaisir, Nathalie.
Et à très bientôt. Merci à tous les trois également d'être passés aujourd'hui sur le Pont des Arts. Yann Dacosta, Ahmed Kadri, Majid Shir Miloudi, Larchouma au Théâtre de la Reine Blanche à Paris jusqu'au 19 avril. Damien Roucou était à la programmation. Pierre Plantier à la réalisation. L'émission est à retrouver sur RFI Pure Radio. Et n'hésitez pas pour réagir, commenter, à vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux. Lundi, sur le Pont des Arts, la peinture chamarrée et réjouissante de J.P. Mika à l'occasion de l'exposition La Voix de la Nature consacrée à l'artiste congolais à la galerie André Magnien à Paris. J.P. Mika sera avec nous. Elle vient de faire son entrée dans le studio. Annie Gasnier, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Dans 10 minutes à la radio et à la télé et sur Facebook même, le Café des Sports.
Exactement, votre rendez-vous incontournable du vendredi avec le football parce que en outre la version télévisée grâce à France 24, il y a aussi Rémi et Xavier. Rémi Ngono et Xavier Barré qui ont toujours une bonne raison de ne pas être d'accord. Nous évoquerons aussi avec l'aide de notre correspondant en Espagne, François David, le football espagnol avant son 3e classico de la saison. Et puis la crise à l'OM entre l'entraîneur et ses joueurs.
Bonne émission Annie. Dans une minute,
merci.
Le journal sur RFI.